VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce mercredi 6 mai 2015. À la une ce soir.
Signe d'apaisement au Burundi, le pouvoir ouvre des discussions informelles avec les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza.
L'ONU condamne la mort de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la RDC.
En Guinée, le chef de file de l'opposition, Seloud Alaine Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel.
Crise au Yémen, Washington propose une pause humanitaire dans les combats et offre une nouvelle aide de 68 millions de dollars.
Fin de la campagne électorale en Grande-Bretagne, les sondages prédisent un résultat serré demain entre David Cameron et Ed Miliband.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le gouvernement burundais a ouvert des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Bujumbura a été aujourd'hui le théâtre de nouveaux affrontements, nous dit Idriss Fall.
Le pouvoir a accepté de discuter avec des éléments de la société civile et de l'opposition. Mais un participant à ces discussions s'est montré sceptique, disant que le gouvernement refuse de discuter du troisième mandat, ce qui, selon lui, est non négociable. La Cour constitutionnelle a donné raison au chef de l'État. Cette décision est rejetée par les opposants qui estiment que cette Cour est inféodée au pouvoir. Dans les quartiers de Bujumbura, à Kanyosha, la tension était vive entre manifestants et les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. À Kinindo, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les manifestants. Des heurts ont aussi eu lieu à Chibitoke. Alexis Manirakiza, porte-parole de la Croix-Rouge, a fait état de 16 blessés. Depuis le début des manifs, les violences ont fait 14 morts. Et pour tenter d'éteindre le feu, les ministres rwandais, kenyans, ougandais et tanzaniens des affaires étrangères sont à Bujumbura pour tenter de rencontrer tous les acteurs et essayer de proposer des voies de sortie de crise.
La crise politique au Burundi inquiète l'ONU. Plus de 35 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins, déplore le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés. Au Rwanda, les réfugiés disent fuir des campagnes d'intimidation perpétrées par les jeunes du parti au pouvoir au Burundi.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné la mort hier de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. En revanche, les quatre soldats de maintien de la paix portés disparus ont été trouvés et sont sans danger. Dans le même temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la MONUSCO, annonce des renforts pour une contre-offensive contre le groupe rebelle ougandais. Le point avec Eddie Isango.
L'ONU se rend à l'évidence que le groupe rebelle ougandais a bien gardé sa capacité de nuisance en dépit de l'annonce de la mort de certains de ses responsables et des arrestations d'autres la semaine dernière. Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, l'a admis mercredi. La veille, deux casques bleus ont été tués dans une embuscade d'une centaine d'hommes supposés être des ADF. Un jour plus tôt, un hélicoptère de la MONUSCO en patrouille a essuyé des tirs du même groupe dans la même région. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fermement condamné les attaques des ADF. La MONUSCO a décidé d'envoyer des renforts dans la région et d'y déclencher une contre-offensive. Celle-ci pourrait se faire en parallèle avec l'opération lancée par l'armée congolaise qui a abouti la semaine dernière à la mort des 16 combattants, dont le numéro 3 des ADF, et la découverte des 4 fosses communes. La MONUSCO et l'armée congolaise ne font plus route ensemble depuis que la mission onusienne exige que des commandants congolais impliqués dans des crimes soient mis à l'écart, ce que les autorités congolaises refusent.
Et c'est dans ce contexte que l'Ouganda demande l'extradition du chef des ADF, arrêté en Tanzanie en avril. C'est ce qu'indique la police ougandaise, citée par l'AFP. Jamil Mukulu, qui serait âgé de 51 ans, est recherché par l'Ouganda pour une série de crimes incluant des actes terroristes et des meurtres.
Et nous restons dans la région. Hein. Plus de 400 enfants soldats ont pu s'échapper et des groupes armés sévissant dans l'est de la RDC grâce aux opérations militaires en cours contre ces milices. C'est ce qu'estime la MONUSCO.
Crise politique en Guinée, le chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel. L'intéressé l'a déclaré à l'AFP. Cette rencontre ne nous fera pas changer le programme de nos marches et protestations envisagées cette semaine et la semaine suivante, sauf si nos revendications sont totalement et entièrement satisfaites, a précisé le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Sylla, à des journalistes aujourd'hui. L'opposition guinéenne exige une révision du calendrier électoral.
Le président mauritanien a affirmé hier à Nouakchott que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG d'en faire un fonds de commerce. Claire Morin-Gibourg.
Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Selon lui, il en subsiste des séquelles et il dit tout faire pour les traiter en allant vers les anciens esclaves et leurs descendants pour leur offrir de l'eau, des écoles et des routes. Son gouvernement a adopté en avril un projet de loi renforçant la répression de l'esclavage par des peines plus sévères. Le président mauritanien a accusé les ONG de saboter ses efforts en faisant de l'esclavage un fonds de commerce. Trois militants anti-esclavagistes, dont Biram Oulda Oulda Beid, ont été condamnés le 15 janvier à 2 ans de prison pour appartenance à une organisation non autorisée. Leurs avocats ont fait appel. Des milliers de haratines, les descendants d'esclaves, ont manifesté le 30 avril à Nouakchott pour réclamer justice et la fin des discriminations. L'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 et depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'une telle pratique peuvent écoper jusqu'à 10 ans de prison.
Violence intercommunautaire dans le nord du Kenya. Près de 75 personnes ont été tuées en 4 jours dans les affrontements liés à des vols de bétail. Tel est le bilan donné par la Croix-Rouge. Des hommes armés de l'ethnie Turkana sont soupçonnés d'avoir lancé lundi une attaque contre un village de l'ethnie rivale des Pokot, le long de la frontière entre les deux districts, une région qui est régulièrement le théâtre de violences entre ces deux communautés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry se promet de discuter d'une pause humanitaire pour le Yémen quand il se rend en Arabie Saoudite. Il l'a dit lors d'une escale aujourd'hui à Djibouti, Issia Kaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abri et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites Houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sana'a. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été hier en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Les États-Unis ont proposé à leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête pour déterminer qui est responsable des récentes attaques chimiques en Syrie, en particulier celles au gaz de chlore. C'est ce que rapporte l'AFP citant des diplomates onusiens. Cette enquête serait menée par des experts nommés par l'ONU. La Syrie est censée avoir détruit son arsenal chimique au terme d'un accord conclu en septembre 2013.
Élections en Grande-Bretagne, les législatives auront lieu demain, jeudi. Le Premier ministre David Cameron et son challenger du Labour Party, Ed Miliband, ont poursuivi leur campagne jusqu'à ce mercredi. Monsieur Cameron a promis qu'en cas de réélection, il organiserait un référendum sur la présence du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Autre question capitale, l'indépendance de l'Écosse. Les nationalistes écossais ont perdu au plébiscite de l'an dernier, mais ils pourraient devenir le troisième bloc de la Chambre des communes et ainsi former une coalition avec les travaillistes, selon les sondages. davantage, la course est trop serrée pour des prédictions crédibles.
La question de la dette grecque encore dans l'actualité. Athènes a pu faire un paiement de 222 millions de dollars d'intérêt hier, mais des doutes demeurent quant à la somme d'1 milliard de dollars due le 12 mai. En cas de non-paiement, le statut de membre de la Grèce dans la zone euro pourrait être en danger. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, poursuit ses démarches auprès des partenaires européens en vue de maintenir la solvabilité de son pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
Pour faire face à un manque de liquidité provoqué par la baisse des prix du pétrole, le Nigeria a été obligé d'emprunter massivement pour payer les salaires des fonctionnaires, a indiqué le ministre nigérien des Finances. Nous avons de sérieuses difficultés. Cela s'aggrave depuis le début de l'année et va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, a expliqué Ngozi Okonjo-Iweala. Le Nigeria, plus importante économie et premier producteur de pétrole d'Afrique, a été frappé durement par la chute d'environ 50% des prix du pétrole, alors que les ressources de l'État en dépendent à plus de 70%. Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront cette année du lundi 25 au vendredi 29 mai 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Plus de 2500 délégués représentant des institutions financières multilatérales, des agences de développement, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, la société civile et les médias sont attendus. Ces assemblées annuelles vont commémorer les 50 années de la contribution de la Banque au développement de l'Afrique et un nouveau président du groupe de la BAD sera élu. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a appelé aujourd'hui à davantage de mesures dans les rémunérations des dirigeants d'entreprises et notamment des banques. Elle a évoqué des systèmes où les bonus pourraient être annulés ou révisés en cas de mauvaise conduite des dirigeants ou de sous-performance de l'entreprise concernée ou bien si celle-ci devait recourir à une aide publique. La directrice générale du FMI a rappelé que 2 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas de compte en banque et qu'il fallait lutter contre l'exclusion financière.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Merci.
Football européen, deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'est notre premier thème dans la page sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chirouin, bonsoir à tous. FC Barcelone-Bayern de Munich, c'est la seconde affiche des demi-finales aller de la Ligue des Champions qui sent le souffre avec le retour au Camp Nou de l'ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola, désormais à la tête du géant bavarois. Problème pour le club catalan, le Bayern est sa bête noire avec 5 défaites, 2 nuls et une victoire seulement pour les Blaugrana dans l'histoire des duels entre les deux équipes.
Et hier soir, la Juventus de Turin n'a pas tremblé à domicile.
Et oui, le club de Turin a battu le Real Madrid 2-1. Les buts turinois ont été inscrits par Morata à la 8e et Tevez à la 58e sur pénalty. Et bien sûr, Ronaldo à la 27e minute a réduit le score.
Football au Bénin, Bagassi.
Voilà, affaire du retrait de l'agrément de la Fédération béninoise, un émissaire de la FIFA est à Cotonou pour constater les différents problèmes que le foot béninois traverse actuellement. On écoute notre correspondant Élisée Mpatine.
Au cours de son séjour, Primo Covaro a rencontré les membres du comité olympique et sportif béninois, ceux de la Fédération béninoise de football et surtout le ministre des Sports pour justement rédiger un rapport à la FIFA. Et c'est par rapport à cela que l'instance qui dirige le football au niveau mondial va déterminer si le gouvernement béninois a fait preuve d'ingérence vis-à-vis de la fédération et surtout les sanctions qui vont suivre. Après avoir écouté tous les acteurs, Covaro, lors d'un point de presse, a rappelé l'importance de cette discipline.
La priorité pour nous tous, c'est que le ballon roule. Donc, il faut savoir réaliser cet objectif, bien en prendre conscience et pouvoir surmonter parfois certaines choses qu'on souhaiterait peut-être voir différemment. Et la priorité, c'est que le football roule et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer à travers mes entretiens avec le comité de la fédération.
Élisée Rumpati, Boïcon, La Voix de l'Amérique.
Parlons tennis, tournoi de Madrid.
Oui, l'Espagnol Rafael Nadal, numéro 4 mondial et double tenant du titre, a aisément disposé de l'Américain Steve Johnson en 2-7, 6-4, 6-3 ce mercredi. Il accède ainsi au 8e de finale du Master 1000 de Madrid en quête de confiance après un début d'année difficile. Le roi de la Terre battu aura aura donc droit à un huitième a priori sans grand danger face à l'Italien Simone Bolelli, numéro 63e mondial.
Et la NBA, mauvaise nouvelle pour Washington.
Oui, en demi-finale du championnat nord-américain de basketball, un match d'abord très serré mardi soir entre les Wizards de Washington et les Hawks d'Atlanta. Mais en fin de compte, les Wizards ont cédé face à la détermination d'Atlanta et ont concédé la partie 106 à 90. Et puis les Grizzlies de Memphis ont battu les Golden State Warriors 97 à 90.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac en votre compagnie. Nous passons au dossier du jour, Morgane.
Les Pays-Bas ont suspendu ce mercredi leur aide au développement pour le Bénin après la découverte d'une fraude massive sur les fonds versés pour des projets d'accès à l'eau potable. Dans un communiqué des affaires étrangères, la ministre adjointe pour le développement, Liliane Ploumen, précise que la décision a été prise suite aux conclusions d'un audit lancé en 2014, disant que 4 millions d'euros ont disparu et que des sociétés nouvellement créées se sont vues attribuer d'importantes sommes d'argent. Le ministère néerlandais dit attendre du gouvernement béninois qu'il prenne des mesures pour remédier à cette fraude. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Maître Sadiku Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social.
Ça ne peut être qu'un désastre parce que les Pays-Bas, surtout les pays nordiques, d'une manière générale, accordent des aides très généreuses, très souvent non conditionnelles.
Alors qu'est-ce qu'il ressort de cette affaire, 4 millions d'euros qui ont disparu dans la nature?
Il semblerait des sociétés fictives, hein, au centre desquelles serait un certain Rémi Kodo, un monsieur d'une trentaine d'années, qui aurait été appréhendé puis mis en liberté provisoire. Et il paraîtrait que le Conseil des ministres récemment aurait demandé à d'autres sociétés régulièrement constituées de poursuivre la réalisation de ces projets-là en faisant des dons pour que les projets, en fait, soient effectivement réalisés.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de contrôle sur ces sommes considérables?
Non, c'est sûr qu'il doit y avoir des complicités. Au niveau des décaissements, c'est le trésor public. Et même si le ministère concerné, le ministère de l'eau, et d'où sont partis les principaux contrats, mais l'exécutant financier, c'est les services du Trésor, donc il doit avoir des complicités. Donc en arrêtant ce monsieur, surtout que ce sont des sociétés fictives, il doit avoir beaucoup de complicités, parce que les sous de l'État ne se décaissent pas comme ça.
Et qui est ce Rémi Kodo? S'agit-il d'un homme d'affaires connu au Bénin?
Ça serait plus un affairiste qu'un homme d'affaires, parce qu'il y a des gens qui jaillissent de nulle part et qui très rapidement font fortune, et il ne peut pas faire fortune seul. C'est sûr que les gens parlent de la possibilité, on le soupçonne d'avoir financé récemment un parti politique, d'avoir donné, semble-t-il, une centaine de millions à un parti politique, récemment créé lui-même. Donc le don des Pays-Bas, la manière dont il a siphonné l'argent, c'est de faire agréer des contrats, et il ne les exécute pas, ou en a exécuté seulement en partie. Très peu.
Mais je reviendrai vers ma question précédente. C'est tout de même l'État qui est censé contrôler lorsqu'il fait appel à une entreprise, si cette entreprise est fictive ou non.
Oui, au niveau du contrôle que l'on a fait sur les sociétés qu'on a agréées et auxquelles on a confié des contrats, il doit avoir eu de la légèreté. Et au moment du paiement aussi, mais on reçoit quand même les responsables de la société et on vérifie à la banque leur compte bancaire pour s'assurer de leur existence réelle.
Maître Sadiku Alao, président du GERDES Afrique, était joint à Cotonou.
Délestage depuis bientôt 5 jours dans la ville de Gao sur le fleuve Niger. La nouvelle centrale thermique installée il y a moins d'une année ne fonctionne plus, alors que les températures avoisinent les 50 degrés centigrades. À l'ombre. Les Maliens souffrent de la situation, signale notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
6 à 8 obus de mortier ont été tirés tôt ce matin sur le camp des casques bleus onusiens à Kidal, selon un communiqué de l'AMINUSMA. Cette attaque, qui a duré une vingtaine de minutes, n'a pas fait de victimes, encore moins de dégâts matériels. Les casques bleus de l'AMINUSMA ont riposté et renforcé la sécurité autour du camp. Toujours à Kidal, à 6h30, un véhicule civil saute sur un engin explosif improvisé à 1 km au nord du camp de l'AMINUSMA. Deux civils ont été blessés. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'AMINUSMA, Mongi Amdi, a condamné avec fermeté ces actes qu'il qualifie de criminels et lâches. Il réitère toute la détermination de l'AMINUSMA à continuer de s'acquitter de ses responsabilités en appui au Mali, selon le même communiqué. En tout cas, le processus de paix au Mali est fortement menacé à 9 jours seulement d'une possible signature d'accord de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés de la CMA. Entendez par là la coordination des mouvements de l'Azawad. Gabo Boubacar Touré, VOA Afrique.
Les populations nigériennes vivant sur les îles du lac Tchad ont été sommées par les autorités de vider les lieux au plus tard le 4 mai, donc il y a 2 jours. La décision fait suite à une sanglante attaque de la secte islamiste Boko Haram contre une position de l'armée nigérienne le 25 avril dernier. Attaque qui s'est soldée par la mort de 46 soldats et plus d'une trentaine de civils. Mais cette évacuation n'a apparemment pas été préparée, ce que certaines structures de la société civile ont tenu à dénoncer. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Ce sont des milliers de gens qui arrivent, qui ont traversé à pied. Sur le chemin, des gens qui sont morts de soif, de faim, des malades transportés dans des pousse-pousse. Des femmes qui ont accouché, d'autres qui ont accouché et qui sont mortes sur le chemin, etc. Sans vraiment une assistance digne de ce nom. Donc c'est une situation très grave.
Telle est la situation sur le terrain, telle que décrite par le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, Moussa Tiangari.
Selon les témoignages que nous avons recueillis dans la région des Diffa, aucun dispositif n'a été mis en place pour l'évacuation, l'accueil, l'installation et l'accompagnement des populations qui ont été sommées de déguerpir les 74 îles et 116 villages de l'île du lac Tchad. Au contraire, des obstacles même sont dressés pour empêcher aux transporteurs locaux de porter secours, d'aller au-delà de certains endroits pour assurer le transport. Cette situation montre que ce n'est pas une évacuation de la population. Parce que qui dit évacuation, ça veut dire que le gouvernement, les autorités mettent en place un dispositif. On connaît les gens, on vient, on les récupère, on les amène dans un autre endroit, on les installe, c'est ça évacuation. Ce qui est en train de se passer dans le lit du lac Tchad, c'est une expulsion des populations.
Cette décision d'évacuation a été prise par les autorités dans le cadre de l'état d'urgence décrété dans la région de Diffa depuis les premières attaques de la secte islamiste Boko Haram. Pour Alternative Espace Citoyen, c'est cette situation d'état d'urgence qui conduit à des excès et même à des violations des droits de l'homme. Moussa Tiangari.
L'état d'urgence donne lieu à des violations graves des droits humains, parce que chasser des gens de cette façon est une violation des droits. C'est quand même une situation très grave et nous attirons l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. Il ne s'agit pas seulement de contrôler un territoire, mais il faut aussi protéger cette population.
Du côté des autorités régionales de Diffa notamment, l'on assure que tout s'est passé dans les normes. Pas besoin donc de réagir aux accusations portées par l'association Alternative Espace Citoyen. Abdulrazak Idrissa à Niamey, pour VOA Afrique.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h temps universel sur VOA Afrique.
coup de projecteur ce soir sur le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Il faut dire que ce groupe d'experts qui travaille pour amener les gouvernements à libérer les personnes emprisonnées sans cause est peu connu en Afrique.
Il a joué un rôle important dans des cas comme celui du franco-camerounais Michel Thierry Atangana, qui a passé 17 ans en prison au Cameroun. Timothée Dondongmaï s'est entretenu avec Setonji Roland Adjovi, unique membre africain du membre de travail de l'ONU sur la détention arbitraire.
L'Afrique reste un continent où les gens sont peu informés de ce que fait le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un groupe d'experts des Nations Unies. Nous sommes 5. Et on n'a pas énormément de cas qui viennent des pays africains, mais les quelques cas qui viennent sont emblématiques de la situation sur le continent. Donc nous avons le cas de Atangana, où le groupe de travail a rendu son avis en novembre 2013 en disant que les 17 années de prison étaient arbitraires et injustifiées. Nous avons aussi des cas aujourd'hui relatifs à la Gambie, où on a demandé au gouvernement des explications sur une ou deux plaintes. Nous avons aussi le cas d'un journaliste au Swaziland qui a été emprisonné. Mais nous en avons aussi dans les pays du nord de l'Afrique, Égypte, Tunisie, Libye, Algérie.
Quels sont vos rapports avec les gouvernements qui sont concernés par vos enquêtes?
Une fois que nous avons reçu l'information sur la violation, nous écrivons au gouvernement en faisant le point sur les allégations que nous considérons plus ou moins établies pour avoir une réponse du gouvernement avant de rendre une décision. Rares sont les gouvernements qui répondent effectivement. Et même quand ces gouvernements répondent effectivement, on ne trouve pas que la réponse est souvent appropriée aux violations qu'on allègue. On a des cas au Cameroun où le gouvernement a répondu et pourtant le groupe de travail a considéré qu'il y avait eu violation. L'Égypte aussi a répondu à plusieurs reprises et pourtant le groupe de travail a considéré qu'il y avait eu violation des droits de l'homme.
De quels moyens disposez-vous pour amener ces gouvernements à appliquer vos recommandations?
Le groupe de travail fonctionne comme un tribunal, une procédure quasi juridictionnelle. On rend notre décision et on s'en tient à là pour l'instant. On n'avait pas de mécanisme de suivi et on envoie nos conclusions au gouvernement en faisant des recommandations au gouvernement sur ce qu'il faut faire. En général, on demande la libération de la personne, on demande la réparation. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une procédure de suivi où on va continuer à garder le contact avec le gouvernement pour voir l'exécution de nos conclusions. Et on va travailler aussi avec la victime pour s'assurer que la victime obtienne réparation. Et il y aura probablement la société civile qui sera informée et qui fera aussi son activisme comme d'habitude.
C'est Onji Roland Adjovi, unique membre africain du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui à la une ce soir.
Signe d'apaisement au Burundi, le pouvoir ouvre des discussions informelles avec les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza.
Cependant, on a signalé quand même quelques affrontements dans les rues de Bujumbura. Aujourd'hui, l'ONU condamne la mort de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la RDC. Cependant, quatre travailleurs onusiens, quatre casques bleus de préférence, qui étaient portés disparus, ont été trouvés sains et saufs.
En Guinée, le chef de file de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel.
Crise au Yémen, Washington propose une pause humanitaire dans les combats et offre une nouvelle aide de 68 millions de dollars.
Fin de la campagne électorale en Grande-Bretagne. Les sondages prédisent un résultat serré demain entre David Cameron et Ed Miliband.
Cette édition touche à sa fin. Nous remercions Cornelius Ténor qui était à la console et à la production, Morgane.
Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Oui, je voulais remercier justement Georges Léonard Sagno. Il ne faut pas l'oublier. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook. On est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.